Notre invitée ce matin est Léa Weinstein, grande spécialiste de Franz Kafka, l'auteur phare du début du XXe siècle. On connaît bien sûr Le procès, La métamorphose, mais il y a aussi Le château, ses journaux et même l'histoire par exemple d'une petite souris prénommée Joséphine. Autant de textes que Kafka souhaitait voir détruire à sa mort, et c'est là que commence votre enquête littéraire. Bonjour Léa Weinstein.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Flammarion J'irai chercher Kafka, enquête littéraire, donc l'histoire de votre voyage sur les traces de ces manuscrits qui auraient dû être brûlés et qui ont été sauvés en passant notamment par Prague, Tel Aviv et puis une très longue saga judiciaire. Léa Weinstein, on peut dire que dans votre livre, le personnage, c'est vous et ce sont aussi les manuscrits et que leur parcours lui-même est kafkaïen dans le sens où ça semble presque absurde qu'ils aient manqué de disparaître et qu'il ait fallu tant de difficultés pour qu'ils nous parviennent.
Oui, un parcours kafkaïen et l'histoire de manuscrits qui devaient être détruits et qui finalement vont vivre une odyssée qui ressemble en effet à un roman, qui est même parfois encore plus rocambolesque et plus surprenante qu'un roman de Kafka, une histoire incroyable.
Et ils sont tellement un personnage, ces manuscrits, que vous parlez même à un moment de rencontre avec eux. Là, je vous cite, ça provoque chez vous des émotions qui sont semblables à celles d'une rencontre ?
Oui, vraiment, parce que quand on mesure l'histoire qui est la leur, c'est-à-dire quand on mesure le nombre de sauvetages dont ils ont fait l'objet, puisque vous l'avez rappelé, donc Kafka meurt en 1924, laissant ses deux billets à l'attention de Max Brod, qui était son meilleur ami, lui demandant de détruire l'ensemble de l'œuvre. Max Brod décide de faire l'inverse et de tout rechercher, de tout retrouver, de tout publier. Donc il y a ce premier sauvetage. Et puis là, on est en 1924, il y a 100 ans, à Prague. Mais quelques années après, alors que Max Brod est en train de commencer ce travail de publication, Prague va être envahie par les nazis. Et donc Max Brod va s'enfuir, va prendre le dernier train qui va quitter Prague.
Avec sa valise et les manuscrits dedans.
Exactement. Donc là, il y a un deuxième sauvetage et non des moindres, puisque les autres manuscrits restés feront l'objet d'autodafés et seront détruits par les nazis.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous revenez donc sur cette relation entre deux hommes, Max Brod et Kafka, et vous posez cette question: en nous léguant Kafka, l'a-t-il trahi? Est-ce que ce sauvetage n'est pas une trahison? C'est une question assez vertigineuse parce que Kafka ne voulait pas être publié. Et vous avez cette phrase extraordinaire: nous découvrons Kafka en le lisant et nous l'entendons nous dire « vous n'avez pas le droit de lire ça ». Les millions de personnes qui ont lu La Métamorphose, Le procès, à chaque fois qu'on ouvre une page de Kafka, on n'avait pas le droit de lire ça.
D'une certaine façon, on le trahit, nous aussi, quand on le lit. Effectivement, la question est vertigineuse. On a d'abord le sentiment qu'il l'a sauvé. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis ensuite, on se demande si ce sauvetage...
Le sauvetage est une trahison.
N'est pas une trahison, ça marche un peu dans tous les sens. On peut retourner cette question beaucoup. Ce que Max Brod va passer ensuite sa vie à dire, et ce que je trouve aussi assez incroyable, c'est que Max Brod écrivait lui-même. Et je pense pas que vous le connaissiez comme écrivain. Aujourd'hui, en français, on peut rien lire de lui d'autre que sa biographie de Franz Kafka.
Mais vous dites qu'il était plus célèbre que lui à l'époque.
Il est plus célèbre que lui à l'époque. Et il va comme renoncer, si vous voulez, à sa propre œuvre pour se consacrer à l'œuvre de son ami disparu. Kafka est mort à l'âge de 40 ans, il est mort jeune, donc il reste des années ensuite à Max Brod, qui est à peu près son contemporain. Voilà. Mais Max Brod va petit à petit abandonner son œuvre. Donc à partir de là, est-ce que c'est une trahison ou est-ce que c'est une fidélité d'amitié encore plus grande? Et ce qu'il va répéter toute sa vie, c'est que Kafka lui avait dit qu'il laisserait ce testament, que c'était pas quelque chose de tabou entre eux, et que Max Brod lui avait toujours répondu « tu sais très bien que je le ferai pas
». Pourquoi est-ce que Kafka ne voulait pas être publié? Il rejetait ses propres textes, c'est le moins que l'on puisse dire, écrivez-vous, et d'ailleurs son testament l'indique parfaitement. Qu'est-ce qui fait que cet auteur génial ne voulait pas de ce qu'il écrivait?
Parce que je pense sans doute, j'imagine, comme beaucoup d'auteurs géniaux, il ne jugeait pas son œuvre comme nous, et il la trouvait sans arrêt imparfaite. Donc je pense que ça, c'est à prendre au sérieux, c'est-à-dire que c'est pas seulement de la coquetterie d'écrivain. Je pense que
vous racontez qu'un jour il lit La Métamorphose en public et il éclate de rire en découvrant ou en redécouvrant le texte qu'il a écrit.
Voilà. Alors ça, c'est peut-être une qualité, mais il voyait beaucoup de défauts dans son œuvre, et donc je pense que voilà, parfois aussi entre le désir le plus profond et le rejet le plus total, parfois la frontière est très mince. Donc à la fois il rêvait de publier ses textes, il en a publié quelques-uns, très peu, des nouvelles uniquement de son vivant. Donc il a quand même été engagé dans cette aventure de la publication, mais tout ce qui restait, et notamment les romans qui sont d'ailleurs inachevés, il les jugeait trop imparfaits pour pouvoir les publier. Il en avait véritablement peur, je pense.
Mais il veut pas seulement qu'ils soient détruits, il veut qu'ils soient brûlés. Et là, on pense aux autodafés, mais qui auront lieu plus tard, qui sont le fait des nazis en 1933, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui vient de son rapport au judaïsme ? Vous citez par exemple une lettre à Milena, une des femmes que l'écrivain a aimées, et où il lui reproche d'avoir une trop bonne opinion des juifs, il voudrait tous les bourrer dans un tiroir pour les asphyxier, c'est ce qu'il dit, hein, là je le cite. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce rapport au judaïsme et au parallèle qu'on peut faire avec les autodafés des nazis. Il y a quelque chose de cet ordre, une espèce de haine de soi.
Alors, est-ce qu'il y a une haine de soi ? En tout cas, Franz Kafka a un rapport à lui-même, d'une part, on l'a compris, et au judaïsme qui fait partie de son histoire familiale, de ses origines très complexes. Il va y avoir d'ailleurs plusieurs périodes extrêmement différentes dans sa vie, des périodes où il va s'en rapprocher, s'y intéresser beaucoup, et des périodes où, au contraire, il va être vraiment dans un rejet, dans un refus de ses origines, d'être assigné en fait à cette identité. Donc il va y avoir voilà des mouvements souvent contraires qu'on retrouve exactement dans le rapport à son œuvre, à la fois ce désir d'être publié, d'être lu, d'être connu, et ce rejet de ses propres textes au point de demander de les brûler. Et certains témoignages, c'est très violent, et d'ailleurs ça pose beaucoup de questions. Et certains témoignages concordent pour dire qu'il aurait lui-même brûlé aussi certaines choses avant de mourir, puisque c'est une des questions moi qui m'obsède aussi. Si on veut détruire son œuvre, pourquoi est-ce qu'on le fait pas soi-même ?
Oui. Et pourquoi est-ce qu'on confie ça dans son testament à son meilleur ami ? Vous écrivez aussi que donc Max Brod ne cache pas à Kafka, enfin cache à Kafka qu'il allait le trahir. Si je me refuse à opérer le geste érostratique que mon ami demande de moi, c'est que j'ai mes raisons profondes. Le geste érostratique, c'est un peu compliqué, mais Érostrate, c'est un personnage qui est rentré dans la légende et dans la mythologie. Pourquoi ? Qui est Érostrate ?
Oui, parce que justement, c'est quelqu'un à qui on va ordonner un incendie et qu'il ne va pas opérer pour pouvoir sauver quelque chose de l'ordre de la civilisation grecque. Donc Max Brod s'identifie à cette figure en disant « on m'a ordonné un incendie, je ne l'ai pas opéré, mais j'ai sauvé quelque chose de la civilisation alors européenne ».
Et c'est là justement, Léa Weinstein, qu'on a envie de vous interroger, parce qu'il y a votre travail de biographe, de philosophe, d'universitaire, et puis il y a évidemment le travail d'écriture qui est intime pour le coup. Vous parlez de Kafka comme on parlerait d'un amoureux qu'on perd, qu'on retrouve. Vous parlez même de Kafka en disant « c'est lui ». « J'irai chercher Kafka », c'est le titre du livre, mais c'est aussi un peu « j'irai chercher ce qui est en moi ».
Oui, et d'ailleurs le titre reste au futur, parce qu'il y a quelque chose voilà qui de toute façon continuera de se chercher, et Kafka est peut-être le nom de ça, de ce qu'on cherche, de ce qui nous habite aussi. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent connaître, la manière dont une figure comme ça, alors pour moi ça a été un écrivain, ça a été celui-là, mais la manière dont une figure peut habiter votre vie pour des raisons parfois hasardeuses, entre dans votre vie, et puis se met à la peupler.
Pourquoi lui ?
Pourquoi lui ?
C'est la photo.
C'est une carte postale, voilà. Ça, c'est le premier souvenir d'enfance qui ouvre le livre. C'est une carte postale dont je me souviens dans le bureau de mon père lorsque j'étais enfant, qui me fait faire beaucoup de cauchemars, parce que quand même, Kafka avec son chapeau et cette espèce de sourire sur la photo la plus célèbre de lui a quelque chose d'un peu effrayant. Donc, ce sont d'abord des cauchemars d'enfance que je vais essayer ensuite de poursuivre, en fait. Et il va continuer comme ça, d'habiter ma vie comme des écrivains, des cinéastes peuvent habiter la vie des gens.
Oui, mais la lectrice de Kafka que vous êtes, elle cherche un sens et elle se dit peut-être que Kafka peut m'aider à trouver un sens dans ce monde et dans ma vie. Or, quand on lit Kafka, et c'est d'ailleurs même devenu un adjectif, on pense kafkaïen, on pense absurde, on pense mystère. Il nous propulse dans l'archi-réalité. Donc, il vous a vraiment aidé à quoi, finalement, Kafka ?
Je pense qu'il aide à comprendre le monde, justement, dans son absurdité, peut-être dans son étrangeté. Il nous aide à la voir comme étrangeté. Il nous aide à la regarder. En tout cas, moi, il m'aide à voir le monde un peu autrement, à connecter des choses, à voir, par exemple, je raconte que je me retrouve dans un musée à Tel Aviv, à une exposition d'art contemporain, avec une œuvre d'Annette Messager et un rat qui est suspendu à l'envers. Et ça me fait immédiatement penser à José Fine, ce texte de Kafka qui raconte l'histoire d'une
souris qui danse.
Voilà, donc comment des fictions peuvent comme ça habiter nos vies et nous aider à regarder le monde autrement.
Mais là, le bilan, c'est qu'on part de cette carte postale et de cette photo qui vous fait un peu peur, et à la fin du livre, finalement, vous dites « je n'ai plus peur » ou « je n'ai peut-être plus peur », je ne sais plus quelle est exactement la phrase, et vous vous réveillez dans la nuit en riant. Enfin, vous êtes un peu somnambule et vous riez. Donc, finalement, le bilan de toute cette quête, ces traces des manuscrits que vous avez suivies, c'est vous avez exorcisé votre peur par rapport à Kafka ?
Oui, je pense qu'en tout cas, j'ai réussi, en cheminant, en voyageant, en enquêtant, j'ai réussi à m'approprier quelque chose de lui et donc à en avoir moins peur. Oui.
Il y a quelque chose de vertigineux aussi, c'est qu'on se dit donc qu'on aurait pu ne jamais lire Kafka. Kafka aurait pu ne pas exister comme auteur dans le monde depuis 100 ans. Est-ce que vous vous demandez ce que le monde aurait été, si le monde aurait été différent si on n'avait pas eu l'œuvre de Kafka ?
Je pense que le monde aurait été différent parce qu'on n'aurait pas eu les mêmes outils pour le lire, en fait. On n'aurait pas eu les mêmes lunettes pour le regarder. Peut-être que notre rapport à la loi, notre rapport à l'administration, notre rapport à cette étrangeté du monde, du quotidien, le fait que ce soit devenu un adjectif, c'est pas un hasard. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il devient un adjectif ? Parce qu'il y a quelque chose dans son œuvre qui nous aide à poser des mots sur la façon dont le réel se donne à nous.
Il est kafkaïen.
Léa Weinstein, autrice kafkaïenne peut-être, de J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire tout juste parue chez Flammarion. Merci beaucoup à vous de nous avoir répondu sur France Inter.